La revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Que reste-t-il de la démocratie quand l'élection n'est plus un sanctuaire? C'est la question que pose ce matin la décision de la Cour suprême électorale de Turquie.
Oui, une cour qui, hier soir, a ordonné que soit rejouée l'élection du maire d'Istanbul. Élection qui, le 31 mars dernier, avait donné la victoire à Ekrem İmamoğlu, issu des rangs de l'opposition au président Erdogan. C'est d'ailleurs, nous dit le quotidien Hurriyet, le parti présidentiel, l'AKP, qui avait déposé un recours contestant ce résultat. Plus d'un mois après l'élection, alors qu'İmamoğlu avait pris ses fonctions mi-avril, on lui retire donc sa victoire, son mandat, et on rappelle les Stambouliotes aux urnes le 23 juin. Alors bien sûr, en bon quotidien de référence, dans un régime très regardant sur ce que publie la presse, Hurriyet se garde bien de commenter cette décision, mais le journal reprend les arguments du pouvoir sur les soi-disant irrégularités commises le jour du vote. On rappellera aussi que seulement 14 000 voix séparaient Ekrem İmamoğlu de son concurrent adoubé par la présidence, Ben Ali Yildirim, pour une ville, Istanbul, qui compte 10,5 millions d'électeurs. Après, plus on s'éloigne de la Turquie, et bien plus l'analyse devient critique. Le site d'info Arval, créé aux États-Unis par des journalistes turcs exilés en 2016, se permet par exemple de citer le maire défait İmamoğlu, selon qui la Cour suprême électorale a clairement cédé aux pressions politiques imposées depuis des semaines sur elle par le camp présidentiel. Arval remue même le couteau dans la plaie, nous rappelant qu'Istanbul est la ville la plus peuplée de Turquie, sa principale place financière, et que la défaite de l'AKP fin mars avait été vécue comme un camouflet particulièrement violent par le président en personne. D'autant que Recep Tayyip Erdogan avait entamé, on s'en souvient, son ascension politique en 1994 en se faisant justement élire maire de la métropole. C'était il y a 25 ans et depuis, jamais Istanbul n'avait échappé à l'AKP, ajoute The Washington Post, qui en conclut que oui, la défaite aux dernières municipales avait de quoi terrifier et faire enrager le président turc. Dès lors, la solution était simple. Quand on est un président autocrate, si un résultat d'élection ne vous plaît pas, eh bien, on fait revoter jusqu'à obtenir le bon résultat. C'est en gros ce qu'a fait Erdogan selon la chaîne publique allemande ARD, l'Allemagne où l'affaire Istanbul fait la une ce matin. La Süddeutsche Zeitung, pour résumer les réactions à la décision de la Cour suprême électorale, a d'ailleurs choisi ce titre. La Turquie est tout simplement une dictature. C'est une citation en fait d'un leader de l'opposition turque qui tire cette conclusion. En Turquie, il est donc autorisé de se présenter contre l'AKP, mais il est interdit de gagner.
Et dans la presse nationaliste chinoise, des appels à la résistance face aux États-Unis, Camille.
Et surtout face aux méthodes toujours plus agressives déployées par Donald Trump dans les interminables négociations commerciales sino-américaines. Cela fait des mois que ça dure. Le Financial Times, pourtant la semaine dernière, nous annonçait la signature imminente d'un accord de libre-échange. Mais depuis deux jours, la Maison-Blanche souffle à nouveau le froid. Trump en personne a annoncé dimanche que les droits de douane sur les produits d'importation chinoise vont augmenter de 25% à compter de vendredi prochain. C'est ce qu'on appelle mettre le pistolet sur la tempe des négociateurs chinois. Et c'est le genre de méthode que Pékin a toujours refusé, lit-on dans le Global Times, ce journal officiel du régime communiste en langues étrangères. Alors, le même quotidien nationaliste nous dit que la Chine va résister aux pressions américaines. C'est d'ailleurs le titre de l'édito du jour du Global Times. Les Chinois y sont présentés forcément comme les gentils négociateurs attachés à obtenir un accord gagnant-gagnant face aux méchants américains qui multiplient les gestes inamicaux et les méthodes de chantage. Alors forcément, si on lit la version américaine telle que reprise par le Financial Times, ce sont les Chinois qui sont accusés de renier leurs engagements et de précipiter les négociations dans l'impasse. Résumé de la situation par le chef de la délégation américaine, les négociations sont amicales, il y a une vraie relation de confiance qui s'est installée, le problème c'est juste qu'on recule au lieu d'avancer. Alors me direz-vous, avancer, reculer, ça dépend de quel côté de la table on se place. On a beau affirmer vouloir un accord gagnant-gagnant, il est difficile de faire concorder les intérêts des deux plus grandes puissances commerciales au monde. Mais attention tout de même à ne pas tomber dans la rhétorique du choc des civilisations, avertit l'analyste Jessica Chenoweth dans une tribune pour le Washington Post. Il y a cette tentation, c'est vrai, côté américain, de faire passer les blocages des négociations sur le compte d'une soi-disant incompatibilité civilisationnelle, l'Orient et l'Occident ayant deux façons de commercer opposés et irréconciliables. Tout cela ne tient pas, écrit donc Chen Weiss, pour qui il faut en finir avec l'essentialisation d'une Chine éternelle ou éternellement fermée au monde extérieur. Ce pays-là, et c'est sans doute ce qui inquiète le plus les États-Unis, n'a plus rien à apprendre en matière de globalisme, de capitalisme globalisé et de techniques de négociation.
Et puis on va terminer en parlant de radio. Voilà, la radio parle de la radio, Camille. On va s'intéresser à nos confrères de NPR, un réseau de radio publique américaine dont la matinale vient de changer, on appelle ça, d'habillage sonore. Et ça crée une véritable révolution chez les auditeurs.
Oui, à tel point que le New York Times en a fait un article hier, jour du grand changement. Il faut dire que cet indicatif-là n'avait pas changé depuis 40 ans.
C'est pas mal, c'est doux.
Eh oui, on est bien en 1979, c'est cosy, c'est chaleureux, ça évoque un générique de série télé familiale de l'époque, hein, comme le Cosby Show par exemple, ou comme une publicité ricorée, tout
ricorée,
un univers.
Vous pensez qu'aux États-Unis ça existe?
Ah bah ricorée. En tout cas, on est bien dans la même ambiance, je pense
un
qu'on est allé
café
copier
au
ça.
Lait, quoi.
Ça doit exister. En tout cas, le New York Times nous rappelle que les 14 millions d'auditeurs hebdomadaires de la Morning Edition avaient appris à aimer cet indicatif qui était intimement associé à leur petit matin. Sauf qu'hier, bienvenue en 2019, ils ont été accueillis par ça.
Ça fait un peu peur, non?
Attendez, vous allez voir. Ah oui, je vois grimacer,
c'est
Guillaume.
C'est plus groovy.
Vous y voyez déjà. Et oui, c'est autre chose. Hein. Vous mesurez l'évolution des radios publiques en 40 ans, à la NPR comme ailleurs. Pour ce qui est de la France, de France Culture, je vous laisse en juger. On a clairement cédé à la tendance bip électronique, tension du direct et info en continu. On ne l'a pas fait de gaieté de cœur, mais il fallait cibler un public plus jeune, nous expliquent dans le Times les responsables de l'habillage sonore, donc de la NPR, et en jugé par l'avalanche de messages horrifiés depuis hier sur les réseaux sociaux américains, des messages qui sont compilés par le site du Nieman Lab de Harvard. On comprend que le changement a bien du mal à passer chez les auditeurs. L'auteur de l'article, Joshua Benton, en tire une conclusion volontairement optimiste. Si un changement d'indicatif radio suscite encore de telles réactions et des articles dans la presse, alors c'est le signe que ce média, notre média, la bonne vieille radio à l'ancienne, a toujours sa place dans le cœur et les oreilles de millions de gens. Et ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça va me faire ma journée.
Bah, nous aussi, Camille Magnard, merci beaucoup pour cette revue de presse internationale. Et je vais lancer le bip électronique, ce qu'on appelle le jingle, c'est ça,
Camille?
Vous
voulez qu'on vous la remette pour faire un petit truc à la Guillaume Herner?
On va faire un jingle France Culture, vous allez l'entendre.
Les matins de France Culture, Guillaume Herner.